tous et bienvenue autour de votre grande table du mercredi. Dans la seconde partie de l'émission, Harry Potter, Matrix ou encore La Servante Écarlate, comment la culture populaire nous aide à réfléchir, à penser le monde qui nous entoure, films ou séries. Vous en avez consommé, comme on dit, consommé beaucoup depuis le début de la crise sanitaire. Un moindre mal pour un plus grand bien, nous dira notre invitée, la philosophe Marianne Cheyan, auteure de In Pop We Trust, qui est apparue et elle nous en parlera dans la seconde partie de l'émission à partir de 12h55. Mais d'abord, c'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est aussi une expérience qui consiste à faire dialoguer l'art du conte et l'art du dessin, les mots et les images. Diane de Sellier est notre invitée pour la parution des Contes de Perrault, illustrés par L'Art Brut. Elle est à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Perrault a écrit des contes en vers, Gris et Lydis, Peau d'âne et Les souhaits ridicules, et d'autres en prose, des histoires du temps passé, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Le maître chat ou Le chat botté, Les fées, Cendrillon, Riquet à la houppe, Le petit pousset, des contes d'ici et des contes d'ailleurs. Bonjour à vous, Diane de Sellier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ces contes, vous les avez rassemblés dans un beau livre, très beau livre, illustré. Pourquoi avoir choisi de reprendre les originaux de Perrault? Est-ce que vous diriez d'abord, pour commencer, que sa langue, elle est parfois difficile à saisir, elle n'est pas si enfantine, mais c'est une belle langue que vous aviez envie de retrouver un beau livre?
C'est une magnifique langue, la langue de Charles Perrault pour les contes de La Fontaine. Il ne faut pas oublier que Charles Perrault, qui est contemporain de Jean de La Fontaine, était académicien. Et les histoires qu'il a écrites, les contes qu'il a écrits et les nouvelles étaient destinées avant tout à un public adulte. Donc, en redonnant la juste place au conte de Perrault, sa juste valeur et importance, nous avons voulu faire un livre pour toute la famille, en fait. Les histoires des contes de Perrault dans leur version originale diffèrent très souvent des contes édulcorés que nous donnons aux enfants. Mais en même temps, la magie fonctionne quand on lit aux enfants les contes pour adultes de Perrault dans leur version intégrale et originale. On se rend compte qu'il y a une vraie rencontre qui se fait à travers la langue, le mystère et le plaisir des mots.
On peut donc lire et relire Perrault à tout âge.
À tout âge, et je pense même qu'il faut le lire aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'il raconte, les contes de Perrault? Il raconte les peurs, les fantasmes, les désirs, les regrets, tout ce qui fait vraiment partie de notre univers et de notre univers aussi en tant qu'éternels enfants que nous sommes adultes. Donc on retrouve en lisant aujourd'hui les contes énormément d'éléments de psychologie, de fantaisie, de rêve qui nous interpelle personnellement. Et quand on a en plus la chance de le partager avec des enfants ou avec des plus jeunes, on voit comment le dialogue s'inscrit, même silencieux, entre la compréhension de l'un et le regard de l'autre.
Alors il y a quelques contes qui sont moins connus que les autres, et notamment celui de Gris et Lydis. Qui était-ce?
Alors Gris et Lydis, c'est un conte très très étonnant pour lequel je me pose encore aujourd'hui la question: pourquoi se trouve-t-il dans le recueil de Perrault? Gris et Lydis sort tout droit de la dernière nouvelle de Boccace, du Décaméron de Boccace, et s'appelle Griselda. Et dans le Décaméron de Boccace, Griselda, dernière nouvelle du recueil, est là pour montrer les femmes vertueuses et comment vivre quand on est une épouse vertueuse, tout simplement. Et c'est un conte atroce, une nouvelle atroce, parce que c'est l'histoire d'un prince qui va aller choisir une bergère comme épouse, qui est fou amoureux d'elle, mais sa méfiance à l'égard des femmes fait qu'il commence à la suspecter d'infidélité, d'orgueil, de toute une série de défauts bien évidemment typiquement féminins, et commence à lui kidnapper ses enfants, à lui dire qu'ils sont morts, et puis il va jusqu'à dire à sa femme qu'il va épouser une jeune fille et que c'est elle qui va servir les noces. Et chaque fois, cette femme vertueuse dit « Mais mon prince, tu m'as tout donné, tu me reprends tout, je t'aime, c'est normal, etc. Fais de moi ce que tu veux. » Et puis finalement, la fin est heureusement heureuse. Mais pourquoi est-ce que ce dernier conte de Boccace est-il repris en tête du recueil de Charles Perrault quelques siècles plus tard? Ça, c'est un mystère que je n'éclaircis pas aujourd'hui et qui, selon l'époque où on le lit, prend des significations différentes. Mais aujourd'hui, j'ai du mal. Et en même temps, il donne aussi un petit peu le ton des moralités que l'on va retrouver chez Perrault, souvent des doubles moralités, parce que Perrault, dans ses moralités, va dire « oui, la curiosité est un vilain défaut » pour la Barbe Bleue, par exemple, mais en même temps, « oui, la curiosité est source de connaissance ». Donc il y a toujours un jeu chez Perrault entre ce qu'il dit et le message qu'il veut envoyer.
Dans la deuxième partie de l'émission, on reçoit la philosophe Marianne Chaillant qui nous dit qu'il y a de la philosophie aussi dans le divertissement et dans la culture pop. On pourrait dire à peu près pareil hein, avec ses contes de Perrault. Perrault était philosophe aussi à sa manière, même s'il a surtout formalisé dans ses contes, à travers ses histoires, une tradition orale, hein, un répertoire d'histoires qui se transmettait de bouche à oreille avant qu'il les couche sur le papier. Quelle moralité se dégage des contes de Perrault ? Qu'est-ce qu'il veut traduire à travers ces histoires ?
Je ne sais pas s'il y a une moralité globale pour l'ensemble des contes de Perrault.
Il y a des moralités assumées.
Il y a des moralités. Par exemple, pour en donner une évidente, dans Le Petit Chaperon Rouge, la fin dans beaucoup de contes pour enfants, le chasseur va ouvrir le ventre du loup, sortir la grand-mère et le petit chaperon rouge et mettre une grosse pierre à la place. Chez Perrault, l'histoire se termine beaucoup plus brutalement. Mais il met vraiment en garde les jeunes filles contre le loup, contre la séduction, contre les dangers qu'il y a à s'exposer comme elle s'est exposée dans le conte. Mais il y a d'autres moralités, et celles sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est celle du Petit Poucet, qui est le dernier conte du recueil. Et je suis toujours, comme vous avez pu le constater, attentive à la place des contes ou des nouvelles dans un recueil, parce qu'elle veut dire quelque chose. Et le Petit Poucet termine avec une moralité très belle qui dit « mais on est toujours attiré par les enfants quand ils sont beaux et bien faits, et d'un apport et d'un accueil agréable. Mais quand ils sont petits et qu'ils ont l'air malingres et qu'ils ont l'air inutiles et une bouche inutile à nourrir, c'est souvent eux qui vont faire le bonheur de la famille. » Et le livre se termine comme ça. Donc il y a, à travers toutes les vertus qu'expose Charles Perrault, en même temps quand on lit le conte des fées, il y a celle qui parle gentiment aux autres et à la vieille dame au bord du puits, et puis celle qui va lui parler avec un manque total de respect et mépris. Et donc de l'une va sortir des pièces d'or et des diamants, et de l'autre des crapauds et des serpents. Donc il y a cette moralité qui, je pense, est à l'éducation des jeunes, mais derrière des histoires où il se passe toute une série de choses qui touchent à notre intimité la plus profonde.
Voilà, et ces moralités, vous les retranscrivez, elles sont là dans ce beau livre consacré, ces contes de Perrault illustrés par l'art brut. On peut prendre la moralité de Barbe Bleue, hein. Cet homme qui tuait ses épouses, les enfermait dans une pièce, et cette jeune femme, cette dernière épouse qui a eu la clé et qui n'a pas pu s'empêcher d'aller voir. La moralité de cette histoire, la curiosité malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être et toujours, il coûte trop cher.
Et oui, c'est magnifique comme moralité. Mais en même temps, il pousse à la curiosité qui est très saine également.
Des moralités qui sont autant de mises en garde. Hein. Vous l'évoquiez à propos du petit chaperon rouge qui ne sait que ses loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux, ça vaut pour les loups que rencontrerait une petite fille, ça peut valoir pour les hommes qu'une jeune femme croiserait plus tard sur sa route. Il y a un jeu de correspondance, on l'imagine, entre le texte et les illustrations. Mais vous diriez que c'est plutôt l'envie d'illustrer ces textes qui vous ont guidé à choisir ces œuvres ou plutôt un désir de contrepoint. Comment vous avez procédé pour trouver toutes ces images qui n'ont pas été commandées pour illustrer le livre, qui sont des peintures, des dessins existants, pour qu'elles accompagnent aussi bien ces contes de Perrault?
Vous savez, dans la collection pour laquelle je travaille depuis bientôt 30 ans, les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres, chaque année, j'offre au lecteur un dialogue entre un texte fondateur de la littérature pour toute une série de raisons et une peinture qui lui fait sens, qui rentre en dialogue avec le texte, qui permet une autre lecture en même temps et qui rentre vraiment dans cette dialogue fécond, cette résonance, cette envie d'aller plus loin que la lecture. Et ça faisait des années que je voulais illustrer les contes de Perrault, publier les contes de Perrault, mais je ne savais pas comment. Si c'était pour reprendre un florilège d'illustrations pour enfants, ça ne m'intéressait pas. Reprendre les très belles gravures de Gustave Doré, ça avait déjà été fait. Demander à un artiste contemporain, comme je l'ai fait à d'autres reprises, j'avais peur que ça n'enferme les contes dans le regard d'une personne. Et un jour, j'ai eu une intuition, comme une fulgurance, l'art brut. Pourquoi l'art brut? Je crois que c'est monté du plus profond de moi-même, comme toutes les préoccupations des artistes de l'art brut et des contes, peur, fantasme, rêve, désir, etc., viennent de la nuit des temps et du plus profond de nous-mêmes. Et donc, nous avons essayé de voir quel était le lien que l'on pouvait faire entre ces images et les contes. Et on s'est rendu compte que chez ces artistes, enfermés en eux-mêmes, souvent dans des hôpitaux psychiatriques, dans des prisons, qui n'ont comme seule manière de vivre et de s'exprimer l'art graphique, c'est une manière pour eux, pour ces artistes-là, de vivre et de donner un sens à leur vie et une explication même à la vie. On se rend compte que leurs préoccupations sont les mêmes que ce qui est exprimé dans les contes. Et du coup, on retrouve même des Barbes Bleues, alors que Barbes Bleues n'avait pas été du tout dessinée pour les contes de Perrault. Un de ses artistes a dessiné une Barbe Bleue, ou le petit Chaperon Rouge de Bill Traylor, qui est une petite fille avec, tout en rouge, avec un air très déterminé, prête à partir dans la forêt, c'est du moins ce qu'il suggère. On se rend compte que cet artiste était un esclave, un ancien esclave de l'Alabama, et qu'il a passé sa vie à dessiner sur des petits bouts de carton tout un univers dans lequel on se retrouve et on retrouve les contes.
Alors l'art brut, rappelons-le pour ceux qui nous écoutent, il se définit par sa non-définition, par sa singularité justement, c'est un art autodidacte, pratiqué loin des institutions et des conventions, il est le fruit d'une impulsion, c'est ce qu'aurait dit Jean Dubuffet, qui a théorisé ce style et qui a contribué à la reconnaissance de ses productions née dans les hôpitaux, née dans la tête de ceux qu'on appelait alors les marginaux.
La notion même de maladie mentale, je la conteste. De même que la notion de santé mentale, parce que je demande à ce qu'on me montre celui qui est parfaitement sain. Je trouve que ce qu'on attend de l'art, et tout le monde est unanime sur ce point, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'on demande, on dit d'un art qu'il est intéressant quand il est novateur, quand il est inventif, quand il apporte quelque chose de neuf, et par conséquent quand il n'est pas normal, quand il n'est pas banal.
On vous entend raconter cette coïncidence, cette correspondance qui vous est apparue, Diane de Cellier. C'est vrai qu'il y a vraiment deux manières de formaliser aussi des peurs, des fantasmes, des désirs, et on sent cette ambition, cette intention presque commune entre Dubuffet et Perrault à travers ce beau livre que vous nous présentez là. On voit qu'à trois siècles d'intervalle presque, il y avait la même intention. Est-ce que vous diriez que dans les contes aussi, il y a un rapport à la normalité qui se joue?
La normalité,
comme l'évoquait Jean Dubuffet.
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que l'herbe qui poudroie et le soleil qui verdroie. Si vous voulez, il y a de la normalité, parce que quand elle est là en train d'attendre son frère qui va venir le sauver, cette pauvre jeune épouse de Barbe Bleue et rentre dans un univers d'espoir et dans un univers où elle se porte vraiment beaucoup plus loin, bien au-delà de la vie et du quotidien. Quand on voit des histoires comme Riquet à la houppe, on est dans la normalité parce que ce pauvre garçon est totalement déformé d'une laideur repoussante, mais il se retrouve en face d'une fille tellement belle et tellement bête, et puis on va quand même réussir à le rendre beau parce que l'autre femme va finir par être amoureuse de lui. Donc il y a tout un jeu qui se joue entre, et c'est là où les mythes et les contes sont très très forts. Ils nous parlent à nous-mêmes, mais en prenant des biais et des axes différents et en nous permettant d'avoir une certaine distance dans le temps, dans l'espace et dans les exemples qui sont donnés, des châteaux, des forêts, des gouffres, des puits sans fond et tout ce qui nous parle, va au-delà de nous-mêmes et nous permet de donc l'assimiler sans nous sentir directement visés, mais on est directement concerné à la fois. Donc cette anormalité nous aide à rentrer dans notre propre normalité.
Alors toutes ces œuvres, celles de ces artistes anonymes, peu connus en tout cas pour certains, d'autres qui petit à petit ont eu aussi un peu plus de reconnaissance à travers les collectionneurs qui les ont accueillis et qui les ont présentées. Où est-ce que vous les avez trouvées, toutes ces œuvres ?
Alors, quand nous faisons un livre comme ça, nous commençons par rechercher tout ce que nous pouvons trouver comme image de l'art brut. Alors on va voir dans les collections des musées, la collection de Jean Dubuffet, bien évidemment, sa collection de l'art brut à Lausanne. On va voir dans les documents des asiles psychiatriques qui sont connus, qui ont créé des fondations. On va aussi voir la collection de Bruno de Charme ou d'Antoine de Galbert en France. Bruno de Charme est le plus grand collectionneur. Il vient d'atteindre 7000 œuvres de l'art brut, une collection qu'il a commencé il y a plus de 40 ans. Donc toutes ces images que nous retrouvons en faisant vraiment un travail de ratissage, en allant vraiment fouiller très très loin, nous les mettons ensemble et nous choisissons celle qui va rentrer le mieux en résonance avec les différentes parties du conte. Pour chaque conte, il y a, selon la longueur du conte, entre 20 et 5 images, pour vous donner une idée selon les contes plus longs et plus courts. En tout, il y en a 135. Et donc, on monte en puissance comme ça le rapport entre le texte et l'image. Et puis, quand on a fait ce travail-là, on choisit notre préfacier, Céline Delaveau en l'occurrence, pour l'art brut, qui nous fait encore monter les images en puissance. Et puis on soumet notre travail à Bruno de Charme, qui dit « mais dans ma collection, va voir ça, va voir ça, va voir ça ». Et on arrive comme ça à avoir un corpus, mais ça nous prend du temps, c'est 2 ans de travail facilement, uniquement pour collecter les images.
Et il a un goût très sûr, hein, Bruno de Charme, il a quelques pépites dans sa collection qui sont absolument magnifiques. Et quel bonheur d'y avoir accès à travers ce beau livre. Il y a quand même 2 esthétiques miroirs qui se jouent entre les contes et ses œuvres. Est-ce que vous pourriez imaginer, vous, si on devait ajouter du son au texte et à l'image, une troisième correspondance? On sait que Béla Bartok, Michel Legrand se sont inspirés des contes de Perrault pour composer certaines pièces. Est-ce que vous avez la musique qui irait avec ces œuvres?
Je prendrais une musique évidemment sans paroles et très assurée, avec des éléments, mais Béla Bartok l'a très très bien fait, avec des éléments de mystère qui intervient. Prokofiev serait formidable aussi. Et des éléments de mystère et des ruptures pour sans arrêt créer un déséquilibre en même temps dans l'écoute, la lecture et le regard sur les œuvres.
France Culture avec notre invitée, l'éditrice Diane de Cellier, à l'occasion de la parution des contes de Perrault illustrés par l'art brut. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30.
The kiss of Venus has got me on the go. She's got a bullseye in the secrets blown. Now moving slowly, we circle through the square, two passing planets in the sweet, sweet summer air. Sweet summer air. And in the sunshine when we stand alone, we came together with our secrets blown. Secrets blown. Reflected mountains and a lake. Is this too much to take? Asleep or wide awake? And if the world begins to shake, will something have to break? We have to stay awake. Packed with a our world is turned around. This golden circle has the most harmonic sound. Harmonic. alone. We came together with our secrets blown, our secrets blown.
Of Venus, à 78 ans, l'ex-Beatles a encore des choses à nous dire. Extrait du nouvel album solo de Paul McCartney. Instruments et chants, il fait tout sur cet album. C'est le troisième, 50 ans après le premier solo. Une voix que l'âge a un tout petit peu égratignée, mais l'énergie et la maestria de ce musicien hors pair résistent au temps. Voilà ce que nous dit le critique musique du Financial Times. McCartney 3, un album enregistré pendant le confinement chez lui, dans le Sussex, et non dans le mythique studio d'Abbey Road à Londres. Les Beatles, à l'été 69, ont rendu cette adresse célèbre en reprenant son nom. C'est là qu'ils y avaient enregistré leur premier single « Love Me Do », attirant de plus en plus de chanteurs ou de musiciens français, de Claude François en 77 au Versaillais du groupe R en 98. Le match et l'aura du britannique studio Abbey Road contre le français Dérouville, où Elton John et David Bowie ont enregistré. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que si vous passez par chez nous, par ici, par la Maison Ronde, par Paris, par Radio France, dans le grand hall de cette maison de la radio, Amaury Chardot, le producteur de l'émission Jukebox sur France Culture, raconte les décennies d'échanges musicaux à l'heure où la Grande-Bretagne tire sa révérence à l'Europe et rend un hommage à l'île rock illustrée de vinyle tout droit sorti de la discothèque de Radio France. L'exposition Bye Bye Love relie sous l'angle musical le rapport amoureux entre les deux rives de la Manche. C'est un je t'aime, moi non plus, musical à voir.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Avec notre invitée, l'éditrice Diane de Cellier. Avec un livre, on a besoin de personne. Écrivez-vous, confiez-vous dans ce récit autobiographique intitulé « Et ainsi le désir me mène ». Voilà, il est là. Pardon, je me suis trompée de livre. Il y en a trop sur cette table. Elle est grande, mais parfois on s'y perd. Vous avez toujours aimé les livres, vous le racontez, Diane de Cellier, les livres d'aventure notamment. Ceux qui prennent le large, ces livres qui explorent et qui parfois découvrent aussi. C'est le cas de Jules Verne, c'était le cas de Melville. Mais comment faire de sa vie une vie d'aventure? C'était ça qui vous a guidé aussi, sortir l'aventure des livres pour la vivre vous-même avec les livres qui n'ont cessé de vous accompagner?
Et oui, moi je pense que si je ne m'étais pas lancée dans ce monde fascinant de l'édition et des livres, je serais sans doute devenue, je le dis d'ailleurs dans « Et ainsi le désir me mène », exploratrice, ou bien j'aurais été explorer les volcans avec Haroun Tazieff, ou bien les gorilles dans les forêts du Rwanda. J'étais très attirée par ce qui sortait de l'ordinaire, et en même temps, le livre a bercé véritablement mon enfance, et je pense que les dessins dans l'édition de Hetzel, les gravures qui accompagnaient Jules Verne et qui nous emmenaient au-delà de la lecture, ont, sans que je m'en rende compte, attiré vers ce jeu où je relis l'art et la littérature. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, où je raconte mon parcours, qui est un parcours guidé par la passion et guidé aussi par une forme de chance dans un parcours où je voulais sans arrêt révéler et partager toutes les beautés que je rencontrais et toutes les beautés qui attiraient mon regard aussi bien dans les textes que dans la peinture.
Alors il y a quelque chose d'intellectuel dans ce rapport que vous avez au livre, à la peinture, à l'art en général, mais aussi d'extrêmement sensoriel. D'ailleurs, vous ouvrez ce livre, ce témoignage autobiographique et ainsi le désir me mène sur les sensations, le parfum d'une maison d'édition, ou plutôt d'une imprimerie. Ici, depuis des années, feuille après feuille, les livres sont fabriqués. Chaque feuille dévoile un éblouissement de couleurs qui alterne avec l'encre noire du texte. Les feuilles partiront ensuite chez le relieur pour y être pliées, assemblées, cousues et enfin reliées. L'art et la matière. Je vous propose d'écouter encore les mots de l'éditeur Hubert Nissen à ce sujet.
On n'est pas du tout indifférent à l'objet livre. Alors, on n'est pas indifférent à l'objet livre. Je pense que c'est d'abord parce que j'y ai apporté moi-même une très grande passion. Je crois que le livre est une chose que l'on convoite d'abord du regard. Donc, il est très important que dans le regard, il s'inscrive comme un objet désirable. Je pense qu'ensuite, on caresse, on plotte, on tripote un livre. Et il faut qu'à ses sollicitations, il réponde de manière sensuelle. Et puis, il faut qu'on le lise avec agrément. Alors là, il y a des problèmes de longueur, de lignes composées, etc. Il y a toutes sortes de choses très, très intéressantes qui entrent en ligne de compte. Il faut que les papiers soient agréables. Et puis, quand le livre est lu, on le laisse traîner ou on le met en bibliothèque. Il faut encore qu'il soit un compagnon agréable. Donc, j'ai tenu compte de toutes ces choses-là pour essayer de faire un objet qui fût beau, sensuel, agréable à voir, etc.
Et vous parlez de votre travail d'éditrice, Diane de Cellier, comme d'un travail d'artisan. Hein. C'est un travail d'orfèvre que vous menez avec ces livres que vous éditez.
Oui, mon but n'était pas de devenir un grand éditeur et de gérer beaucoup de livres et toute une maison d'édition. C'était vraiment d'être au cœur de chacun de mes ouvrages. Et la seule façon d'être au cœur de chacun de mes ouvrages, c'était, et ça a été un petit peu ma devise, faire peu, mais bien, et des livres qui restent. Faire peu se résume à un titre par an, une nouveauté par an. Après, on les décline dans la petite collection et on les décline de différentes façons. Mais il y a vraiment une grande création tous les ans. Faire bien, eh bien, je rejoins totalement ce que dit Hubert Nissen sur le détail et le soin apporté à chaque chose dans un livre. Les gens prennent le livre en main et ils disent « ce livre est différent ». Ils ne peuvent pas dire que c'est le papier, la qualité de la photogravure, la maquette, les blancs qui sont mis autour des images, l'équilibre du texte dans la page, tous ces petits détails que nous, éditeurs, voyons et auxquels nous sommes très sensibles, mais ils voient qu'il y a quelque chose de plus. Et enfin, des livres qui restent, les Fables de La Fontaine qui ont été le premier livre de cette collection en 1992, nous le réimprimons régulièrement et il reste un des grands succès avec les illustrations de Jean-Baptiste Oudry. 275 illustrations pour les 245 Fables de La Fontaine.
Voilà qui était un peintre et graveur du XVIIIe siècle. Il y a 30 ans, vous fondez donc cette maison d'édition, la vôtre, avec l'envie de tracer une ligne éditoriale claire et différente des autres, qui repose sur ces trois principes, ces trois piliers que vous venez d'énoncer, avec des récits fondateurs, des textes sacrés et une ouverture depuis vers l'Orient. Pas de surproduction, de belles éditions, une sorte de bibliothèque idéale que vous avez bâtie pour nous, dans laquelle on peut retrouver à la fois ces Fables de La Fontaine illustrées par Jean-Baptiste Oudry, ces Contes de La Fontaine illustrés aussi par Fragonard, Don Quichotte de Cervantes par Gérard Garouste, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère illustrées par Mimmo Palladino, un peintre italien contemporain, ou encore la Divine Comédie de Dante avec des dessins de Botticelli. On peut maintenant y ajouter les Contes de Perrault, illustrés par L'Art Brut. Merci beaucoup à vous, Diane de Cellier, d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.